Turning today to the Gospel of John, chapter 16 and verse 12.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans l'Évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 12. L'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 12. Ces paroles de Christ. J'ai encore plusieurs choses à vous dire, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Et nous en arrivons ce matin aux dernières promesses de Christ à ses disciples, quatre promesses, et non seulement aux disciples, mais également à tous les croyants de toutes les générations après cela. Ce sont là les dernières promesses de Christ. Ce sont ses dernières paroles avant qu'il ne soit arrêté, à l'exception de la grande prière sacerdotale du chapitre 17. Mais le verset 12 nous amène à quatre promesses extraordinaires de Christ qui vont encourager les disciples pour les fortifier, pour les préparer pour ce qui va se passer. Le dernier moment où ils sont instruits, la dernière instruction, le dernier enseignement dans leur formation en théologie pratique. Ce sont là les dernières paroles qui sont intimes, qui sont pour les disciples, parce que personne d'autre n'est présent à ce moment-là. Et alors que nous les considérons, mon premier point sera la première promesse, qui est celle-ci, que beaucoup sera encore révélé. Bien sûr, ceci a un sens en particulier pour les apôtres et un sens différent pour nous. En ce qui concerne les apôtres, la dernière partie de l'Écriture leur sera révélée, les livres du Nouveau Testament. Cette révélation sera finie et complète après cela. Dans le cas des autres disciples de Christ, après cela, c'est une promesse de connaître Dieu toujours plus dans la marche chrétienne, dans sa parole, une connaissance qui augmente constamment. L'œuvre de Christ, sa personne, les commandements de Christ, le dessein de Dieu pour l'avenir. L'un des grands privilèges de la vie chrétienne, c'est que nous sommes dans une formation et nous apprenons constamment. Constamment nous sommes approfondis et nous sommes instruits et aidés. L'une des grandes tragédies de la vie chrétienne, c'est quand les gens convertis arrêtent d'apprendre et ils n'ont plus cette faim et soif d'apprendre. Nous en arrivons au verset 12. J'ai encore plusieurs choses à vous dire, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Oui, il y avait encore beaucoup de choses qu'il devait leur enseigner. Mais ils ne pouvaient pas porter ces choses, ou littéralement, ils ne pouvaient pas les porter en grec. Ils ne pouvaient pas faire face à ces choses. Ou ils ne pouvaient pas porter le fardeau, le poids du fardeau, parce que c'est trop pour eux. C'est une déclaration pleine de compassion. J'ai encore plusieurs choses à vous dire, beaucoup de choses, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Et il y avait des raisons très particulières par rapport à cela, parce que Christ n'était pas encore allé à la croix du calvaire. Le Seigneur allait se laisser arrêter dans une faiblesse apparente pour être arrêté, pour être jugé, pour être crucifié. Et ensuite, la résurrection, l'ascension, mais ces grands événements doivent encore se passer. Les disciples ne comprennent pas à ce moment-là, pas encore, comment il va opérer et œuvrer pour être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils ne comprennent pas ce concept de l'expiation, de sa souffrance, de sa mort à la croix du calvaire. Et quand cette dernière partie du ministère de Christ se passe, alors ils vont comprendre tout ce qu'ils ont appris d'une manière si claire et ils seront prêts pour la dernière partie de leur enseignement qui leur sera donnée après la mort et la résurrection de Christ. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à présent parce que vous avez besoin de quelque chose pour vous faire comprendre, pour ouvrir votre compréhension. C'est la mort expiatoire de Christ. Il y a une autre raison. Parce que Christ n'est pas encore mort, qu'il n'est pas ressuscité, qu'il n'est pas retourné au ciel, alors le Saint-Esprit n'a pas encore été déversé. Christ leur a parlé du Saint-Esprit et comment le Saint-Esprit va les enseigner et leur donner la puissance d'une manière invisible en eux, et ceci viendra du ciel. Mais ils ont simplement une petite compréhension à présent de ces choses. Ils ne réalisent pas que quand l'Esprit viendra, alors ils connaîtront Christ, oui, mais à présent par la foi, parce qu'à présent tout est médié par l'œuvre de l'Esprit dans leur âme. Et ceci, ils n'ont pas encore compris. Mais quand Christ mourra, qu'il ressuscite des morts et qu'il retourne au ciel, que l'Esprit descend, alors tout sera beaucoup plus clair à leurs yeux. Et ils pourront recevoir cette dernière partie de leur instruction. Ainsi, dans ce verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Mais au verset 13, quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, et le Seigneur lui donne ce nom particulier, l'Esprit de vérité, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Ce terme en grec traduit par « il vous conduira », c'est une bonne traduction. C'est un peu plus littéral que ceci. Il va vous mener, vous conduire, vous diriger dans toute la vérité. Et ceci est important parce que les disciples ne vont pas être conduits, mais ce terme est utilisé d'une manière un peu faible de nos jours. Conduire ou diriger, ceci peut suggérer que vous avez simplement besoin d'une direction ou d'un peu d'aide. Mais ce que l'Esprit va faire, c'est de diriger, de conduire avec précision. Parce que les disciples ne peuvent pas comprendre les choses par eux-mêmes. Il doit y avoir cette révélation. Le Nouveau Testament va être ajouté à l'Ancien Testament. Alors l'Esprit doit conduire, diriger. Ce sera entièrement son message qu'il va inspirer. Il va les enseigner avec précision. Ainsi, dans l'original, c'est un peu plus fort. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira avec précision dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même. Toute vérité. Nous avons considéré ceci auparavant, quand le Seigneur a dit ces choses au chapitre 14. Mais quand l'Esprit vient, les apôtres et les prophètes également, mais j'explique ceci dans un moment, seront inspirés, enseignés, dans toute la vérité. Il n'y aura aucune vérité qui restera, qui ne leur sera pas révélée. Et ils sont touchés par l'inspiration de l'Esprit pour écrire les livres du Nouveau Testament, le récit du ministère de Christ dans les évangiles, puis les épîtres de l'apôtre Paul qui va se rajouter aux disciples, et d'autres également jusqu'au livre de l'Apocalypse. Ceci sera toute la vérité, toute la vérité. Il n'y aura plus de doctrine ou de vérité qui sera révélée après cela. Et quand la parole de Dieu est finie, complète, il n'y a plus rien qui pourra être rajouté. Et il y a ce grand avertissement à la fin, dans le dernier chapitre de la parole de Dieu, et cette malédiction pour tous ceux qui veulent ôter quelque chose de la parole ou y rajouter quelque chose. Ainsi, les apôtres seront inspirés dans toute la vérité et rien ne restera à comprendre. Bien sûr, l'ère des apôtres sera finie et arrivera à une fin. Il n'y aura plus besoin de prophètes inspirés ou d'apôtres parce que la parole de Dieu est entièrement complète. Et maintenant, nous l'expliquons, nous l'interprétons, nous la prêchons. Nous sommes serviteurs de l'Écriture, tout est là pour nous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même. Ceci inclut le sens dans lequel qu'il ne parlera pas de lui-même. Et c'est intéressant que même si ce n'est pas le sens premier de ce terme, l'Esprit ne parle pas de lui-même dans le Nouveau Testament. Il est l'Esprit qui est invisible, qui se retire qui parle pour exalter Christ. De nos jours, on comprend mal ces choses. Beaucoup de gens dans les milieux charismatiques veulent expérimenter directement des choses du Saint-Esprit de Dieu et inventer toutes sortes d'expériences extraordinaires. Mais l'Esprit ne parlera point de lui-même. Les puritains l'ont appelé l'Esprit timide parce qu'il parle de Christ, non pas de lui-même. Mais ce n'est pas la signification première ici, car il ne parlera point par lui-même. Cela signifie il ne parlera point de sa propre initiative, par lui-même. En d'autres termes, le Saint-Esprit n'enseignera jamais rien que le Fils n'a pas enseigné, que le Père n'enseigne pas non plus. Père, Fils et Saint-Esprit enseignent la même chose. Ce concept de la Trinité, un seul Dieu qui est parfaitement en harmonie dans la Trinité et d'une manière si merveilleuse et mystérieuse, trois personnes éternelles et distinctes dans la Trinité. Car il ne parlera point par lui-même d'une manière indépendante du Père ou du Fils, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. En d'autres termes, il est égal au Père, égal au Fils, et il parle uniquement de ces choses qui sont dites dans le conseil de la Trinité. Le Dieu éternel, là où tous les membres de la Trinité pensent la même chose, et c'est une manière de décrire cela. Il ne parlera point par lui-même d'une manière indépendante, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. En accord avec les autres membres de la Trinité. C'est là ce qu'il dira quand il inspire les apôtres concernant les livres du Nouveau Testament. Mais peut-être vous allez me dire que les apôtres n'ont pas écrit tous les livres du Nouveau Testament. Il y avait d'autres personnes en dehors des apôtres qui ont écrit. Oui, il y avait des prophètes du Nouveau Testament. Et dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2 et 3, il est parlé de ces prophètes qui étaient également inspirés, mais les apôtres doivent authentifier tout ce qui est dans l'Écriture, tout ce qui est écrit. Ou vous pensez peut-être que ceci a été fait par trois conseils d'Église au IVe siècle et ils ont décidé et déclaré quel livre était dans le canon de l'Écriture. La réponse à cette question, c'est non. Ce sont les apôtres eux-mêmes qui ont décidé quel livre était inspiré. Quand je dis qu'ils ont décidé, c'est qu'ils savaient. Ils étaient inspirés par l'Esprit et ils savaient. Ils étaient tous d'un même accord. Nous ne savons pas comment ces choses ont été déterminées, mais quand cette période d'inspiration prend fin, les livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ont été scellés fermement par l'autorité apostolique. Et ce que les conseils d'Église ont fait plus tard, avec une certaine sagesse humaine, c'est d'appuyer et de consolider ceci. Mais ça a été décidé par les apôtres. C'est là la signification du verset 13. « Mais quand lui, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, indépendamment, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Le récit de Christ, les épîtres, le livre de l'Apocalypse, l'explication des desseins de Dieu, des buts de Dieu, Thessaloniciens chapitre 2 qui parle du plan de Dieu pour le futur, pour l'avenir, toutes ces choses. Il va vous montrer ces choses à venir. Au verset 14, « C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit va exalter, glorifier Christ dans cette révélation du Nouveau Testament. Quelqu'un m'a demandé cette semaine, « Qu'est-ce que cela veut dire, cette expression concernant Christ, qu'il est le Fils éternellement adopté. Il est le Fils de Dieu. Il a toujours été exalté, glorifié. Il est le Fils du Père. Ceci ne signifie pas qu'il est inférieur au Père, d'aucune manière. Il a toujours eu dans l'éternité passée, le Père, le Fils. Et cette relation de Père et de Fils entre le premier et le deuxième membre de la Trinité. Et le Saint-Esprit est égal au Père également. Mais le Fils est toujours décrit en termes de Père et Fils. Et vous pensez à un roi dans l'Antiquité, et ce roi est âgé. Son fils, maintenant, est un adulte. Peut-être qu'il a 40 ans à peu près. Il est co-régent et il est roi également. Parfois, il a la plupart de l'autorité. Il n'est plus simplement un enfant, mais il est égal au père. Il est co-régent, si vous voulez. Tous les deux sont rois. Et si vous comprenez cette image, c'est là la relation éternelle entre le Père et le Fils. Et ça a toujours été ainsi. Jamais il n'est né en tant que Dieu. Il est éternel. Il est le Fils éternel de Dieu. Père et Fils sont également éternels. Dieu puissant, tout puissant et égaux en tout sens du terme. Que ce terme « Fils » ne vous fasse pas penser qu'il est inférieur, mais il est éternellement Fils, égal en tout sens du terme. Et c'est ainsi que nous le décrivons, cette relation entre le Père et le Fils. Et le Saint-Esprit également procède du Père et du Fils, et est égal. Mais on en revient à ce verset 14. « C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. » Au verset 15, « Tout ce que le Père a est à moi. » C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. La connaissance, chers amis, c'était là la première promesse, qu'il y a encore beaucoup qui sera révélé. Souvenez-vous que nous avons beaucoup de choses à comprendre. Ne négligez jamais les Écritures, ne négligez jamais l'instruction publique dans la parole de Dieu, la prédication. Soyez toujours cette personne qui aime apprendre. C'est votre privilège et ceci est essentiel, d'être toujours plus profond et de comprendre toujours plus les choses de Dieu. Ceci m'amène à mon deuxième point, et c'est le verset 16. Cette deuxième grande promesse est celle-ci, que Christ, même s'il remonte au ciel, sera vu par les disciples. Et je mets ce terme « vu par les disciples » entre guillemets. C'est là la promesse qu'ils verront Christ. Pour les disciples, c'était une période difficile. Une fois que Christ était mort à la croix du calvaire, ils ont compris ces choses. Mais là, au verset 16, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. À cause de sa mort, et de nouveau, un peu après, vous me verrez. Est-ce que ceci se réfère aux apparitions après sa résurrection? Oui, en partie. Et de nouveau, un peu après, vous me verrez. Oui. Ceci, d'une certaine manière, est accompli dans ses apparitions après sa résurrection. Mais ce n'est pas ce à quoi Christ se réfère. Parce qu'il dit « parce que je m'en vais au Père ». Il se réfère aux choses après son ascension. Quand ils ne verront plus le Seigneur ressuscité et qu'il est retourné à sa gloire dans le ciel d'une manière permanente, à la droite de Dieu le Père. Encore un peu de temps et vous me verrez parce que je m'en vais au Père. Ceci est un mystère. S'il ne se réfère pas aux apparitions après sa résurrection, mais qu'il dit qu'ils le verront après qu'il retourne au Père, et parce qu'il retourne au Père, comment est-ce qu'ils vont le voir? Dans quel sens est-ce qu'ils vont le voir? De quelle manière? Nous allons répondre à cette question, mais d'une manière naturelle, ils ne comprennent pas. Au verset 17, du verset 17, 18, Nous voyons là leur confusion et ils parlent l'un à l'autre. Ils ne demandent pas à Christ. Ils veulent, mais ils ne lui demandent pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? De quoi est-ce qu'il parle? Qu'est-ce que c'est que ce peu de temps? Comment est-ce que nous le verrons? Ce genre de questions sont là dans ces versets et au verset 19. À présent, Jésus savait qu'il voulait l'interroger et lui demander. Et ainsi, il leur explique. Ces questions qui se sont posées l'un à l'autre, ils étaient émerveillés. Il a lu leurs pensées. C'est là ce qu'il a fait auparavant. Et là, il leur explique ces choses qu'ils se sont dites l'un à l'autre. Ils sont étonnés, émerveillés. Et ensuite, il explique au verset 20. Et cependant, c'est encore une explication qui pour eux est voilée. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses encore. En vérité, je vous le dis, je vous assure d'une manière solennelle que vous pleurerez, que vous vous lamenterez. Ceci parle de sa crucifixion. Oui, ils allaient pleurer et se lamenter parce qu'il est mort, parce qu'il n'est plus avec eux. Notre Seigneur n'est plus là. Et ceci signifie que son royaume ne peut pas être restauré. Il pensait qu'il allait mettre en place un royaume terrestre. Il leur a expliqué tant de fois que ce n'était pas le cas, mais ils avaient toujours ces choses à l'esprit, qu'il allait être un messie politique. Jamais ils n'ont compris qu'il allait mettre en place un royaume céleste et spirituel. Mais ils pensaient que ce royaume allait être terrestre. Notre Seigneur est parti, il n'est plus là. Et il n'y aura pas de réforme. Est-ce que nous l'avons suivi en vain? Et ils sont si tristes. Vous pleurerez, vous vous lamenterez. Et le monde, c'est-à-dire les chefs des Juifs, les scribes, les pharisiens, ou toute personne de toute génération qui ne croit pas en Christ, le monde se réjouira. Les chefs des pharisiens seront si heureux parce que il n'y aura plus ces paroles qu'il n'aime pas de Christ, ces foules qui le suivent et qui croient en lui. Et ainsi, leur position en tant que clergé juif ne sera plus remise en question. Ils se sont débarrassés de lui. Le monde se réjouira et vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Oui, ceci va se passer à la résurrection, et quand le Seigneur leur apparaît après. Mais une fois que le Saint-Esprit vient, qu'ils réalisent qu'ils vont voir Christ d'une manière toute nouvelle, par la foi, spirituellement, alors ils se réjouiront. Et l'illustration du Seigneur au verset 21, quand une femme accouche, elle a des douleurs parce que son terme est venu, mais dès qu'elle est accouchée d'un enfant, elle ne se souvient plus de son travail à cause de sa joie de ce qu'un homme est né dans le monde. La naissance d'un enfant, et les parents sont émerveillés, et la mère en particulier, quand elle voit le nouveau bébé, la vie et cette joie qui accompagne la naissance, et elle oublie toute la souffrance. Au verset 22, « De même, vous êtes maintenant dans la tristesse. » Mais je vous verrai de nouveau. Ce qu'il implique ici, c'est que vous me verrez à nouveau. Et votre cœur se réjouira. Et personne ne vous ravira votre joie. Ce n'est pas comme les apparitions après sa résurrection où il apparaît et ensuite il n'est plus là. Il apparaît à nouveau et il est reparti. Puis l'ascension et il est reparti pour de bon. Mais dans un certain sens, il va apparaître. Et ils auront le Seigneur et le verront constamment. Et personne ne leur ravira cette joie, ne leur ôtera cette joie. Il leur dit, vous me verrez, non pas dans la chair, non pas en le visualisant ou en l'imaginant, mais par la foi, vous saurez que je suis là, que je suis avec vous et je serai avec vous. Et nous le voyons tous les jours. Oh, je vais lire un verset ou deux de Philippiens, chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je vous le dis encore, réjouissez-vous, que votre douceur, votre contrôle de vous-même soit connu de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ceci ne signifie pas qu'il revient bientôt, ceci est vrai également. Mais ce texte signifie qu'il est proche, qu'il est près de nous. Le Seigneur est proche, il est là avec nous. Si seulement vous pouvez vous rappeler de ces choses, même dans ces moments difficiles, même dans les difficultés, même dans les moments de tristesse, le Seigneur est proche. C'est là le privilège du croyant que de le voir avec les yeux de la foi et de savoir qu'il est tout près de nous. Ne vous inquiétez de rien, dit l'apôtre Paul, mais en toute occasion exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs comme un campement militaire qui garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est là la deuxième promesse de Christ, que nous le verrons, les apôtres le verront par la foi. Bon, j'ai dû mentionner ceci auparavant, mais si vous vous souvenez de votre histoire, peut-être vous vous souvenez de cet incident dans la vie du martyr et du réformateur Latimer. Il servait le roi Henri VIII et le roi savait qu'il était juste, honnête, il connaissait ses opinions, il savait qu'il ne faisait pas de compromis. Mais sa prédication était si claire que pour qu'il s'en aille de la cour, il a fait de lui un évêque. Et à présent, quand le temps change et que la réforme arrive, et que le roi veut faire retourner l'Église dans la foi catholique, Latimer n'a pas voulu signer ce document, et il est amené à Londres pour prêcher au roi. Ce n'était pas le moment où il a été exécuté, mais c'était un moment très dangereux. Qu'est-ce qu'il allait dire au roi? Il s'est tenu là, et le roi était présent, il a prêché, et Latimer, qui pouvait être spectaculaire en tant que prédicateur, s'est tenu là, et alors qu'il parlait, il a dit « Latimer, fais attention, le roi d'Angleterre est là », il s'est dit à lui-même. Ensuite, il a fait une pause. Et il a continué en se disant à lui-même, en murmurant « Latimer, fais attention, le roi des rois est là ». Le roi a entendu ses paroles. Il savait qu'il allait être honnête parce qu'il craignait le roi des rois plus qu'il ne craignait le roi d'Angleterre. Mais ce qui est important pour nous, c'est que c'était presque une description de sa prédication constante. Il voyait Christ. Il ne le visualisait pas. Il ne l'imaginait pas. Il n'essayait pas de se faire une image de Christ, mais il savait qu'il était là avec lui. Il savait qu'il était près de lui, il vivait comme quelqu'un qui sait que Christ est tout près. Il pouvait lui faire confiance. Il ne pouvait pas pécher parce qu'il savait que Christ était là. Et il allait dire la vérité et honorer Christ. Il n'avait pas peur des circonstances et du roi parce que Christ était là. Et c'est ainsi que nous devrions vivre également. C'est là ce que cela signifie ici. Encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus. Et de nouveau, un peu après, vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. Quelle promesse, chers amis! C'est le privilège de chaque croyant en Christ, présent ici, que de voir Christ par la foi dans notre vie. Oh, combien ceci nous fortifie et nous aide! Et quand nous chantons ce cantique de John Newton, même si parfois je ne ressens pas ces choses, mais la foi le voit toujours, tout près. Sa gloire, mon guide, celui qui me défend. Alors, qu'est-ce que je dois craindre? Voyez-le toujours, tout près. N'essayez pas de l'imaginer, n'essayez pas de le visualiser dans votre esprit, mais voyez-le toujours, là, près de vous. C'est là la promesse de Christ aux disciples. Ils étaient confus. Ils étaient attristés et il leur explique. Ces paroles allaient être si claires. Une fois que le Saint-Esprit a été déversé, Isaac Watts l'exprime un peu différemment de John Newton. Il dit « Avec joie, nous réalisons que celui qui était mort a quitté la tombe. Il vit et nous attendons son retour. Voyez-le toujours, chers amis, tout près de vous. » La troisième promesse, et je dois accélérer parce que notre temps passe, c'est au verset 23. Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie. C'est là la promesse de l'accès au Père. C'est une promesse toute particulière pour les disciples. Avec la résurrection, l'ascension de Christ, ils auront une interaction nouvelle, puissante, particulière avec le Père, cet accès particulier au Père. Et c'est une promesse pour nous également. Chers amis, c'est un mystère. Parce que, est-ce que les croyants n'ont pas toujours eu accès au Père? Oui. Il y a ces grandes prières dans l'Ancien Testament. Elles sont adressées au Père, au Seigneur. Les croyants ont toujours eu accès au Père. Ainsi, qu'est-ce que le Seigneur veut dire ici quand il dit à ses disciples et à nous, à partir de maintenant, vous n'allez rien me demander parce que je ne suis plus là, mais en mon nom, vous aurez cet accès direct au Père. Qu'est-ce qui est différent à présent? Qu'est-ce qui est nouveau, chers amis? L'accès est différent en de nombreux aspects. Dans l'Ancien Testament, pour prier, vous deviez sacrifier. Vous deviez aller et observer la loi et faire des sacrifices. Il n'y avait pas de prière sans sacrifice, sans le temple, sans les sacrificateurs. Oh, vous pouviez prier, mais toutes les grandes prières étaient dans le contexte d'un sacrifice et d'un sacrificateur. Maintenant, le sacrifice a été fait. Le sacrifice efficace, le grand sacrifice que tous les autres sacrifices illustraient, est accompli parce que Christ est venu et il intercède pour ses enfants. L'accès est toujours là et vous pouvez toujours venir. Christ dit, moi je ne prierai pas pour vous, et ceci a une signification limitée. Vous n'avez pas besoin de me demander à moi de demander au Père, mais bien sûr, il prie toujours pour nous. C'est par l'intercession de Christ qu'il montre ses blessures et son mérite, sa perfection à Dieu le Père. Et la prière est ouverte pour nous. Quel privilège extraordinaire! Avez-vous réalisé la profondeur du privilège qui est le nôtre quand nous prions? Ce n'est pas moi qui prie uniquement et qui lutte dans la prière pour que mes paroles arrivent au Père, mais je place mes prières en Christ et j'ai constamment cet accès direct parce que Christ intercède pour moi. Il a versé son sang, il a payé le prix pour que j'aie accès. Et si vous voulez, cette échelle qui amène mes prières au ciel est constamment là. Si vous pardonnez l'illustration, ce n'est pas que moi je prie, mais que je mets mes prières dans cet accès qui est parfait et qui est certain vers le Père, parce que mon Sauveur intercède constamment pour moi. Ses prières sont efficaces et je mets mes prières en lui. C'est une manière de voir la prière que de réaliser le privilège et la puissance de la prière. Combien nous sommes insensés quand nous ne prions pas, quand nous sommes là et que nous n'intercédons pas, que nous ne réalisons pas que nous pouvons intercéder constamment, que j'ai simplement besoin de me confier en Christ et de prier en son nom. C'est là la promesse. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Vous aurez cette liberté dans la prière que personne d'autre auparavant ne connaissait. Et le Père entendra vos prières, il vous verra comme étant digne alors que vous n'êtes pas digne, parce que vous priez dans le nom de Christ. C'est pour cela que nous prions toujours dans le nom de Christ en public. Souvenez-vous de vraiment le dire de tout votre cœur également, que ce soit à l'église ou dans la réunion de prière. Chaque prière doit être dans le nom de Christ. Oh, c'est une formule qui nous est donnée par le commandement de Christ dans l'Écriture. Priez en mon nom, c'est là son commandement. Mais parce que c'est une formule, si vous voulez, que ce ne soit pas quelque chose d'automatique, mais dites-le toujours de tout votre cœur. Je prie parce que Christ prie, parce que Christ est mort, parce que la prière, l'accès vers le Père est pour moi. Et j'ai un libre accès vers le Père, j'ai ce privilège en Christ et par Christ. Et c'est pour cela que le Père va entendre ma prière. J'ai toujours cet accès et donner toujours la gloire à Christ, chers amis. Et j'en arrive au verset 24 pour cette quatrième promesse. Que votre joie soit accomplie, soit pleine. Et ceci est mentionné à nouveau, cette grande promesse de la joie. Oh, si je parle de la joie de la vie chrétienne, oh, je vais prolonger le message. Ainsi, je vais m'arrêter là. Nous avons vu la promesse de connaître Dieu toujours plus. Recevez l'instruction, lisez la parole de Dieu, continuez à approfondir et à grandir spirituellement. Nous avons reçu la promesse et entendu cette promesse que nous verrons Christ, les apôtres, le verront et tous les croyants qui les suivent. Voyez-le, chers amis, tout près, voyez-le. Et ceci est essentiel pour la vie chrétienne. Nous avons vu cette promesse qu'il y aura une liberté unique et particulière dans la prière pour les chrétiens. Et ce dernier point, cette dernière promesse, il y aura également une grande joie. Ce sont les dernières promesses, les quatre promesses de Christ pour ses disciples. Avant sa prière sacerdotale, que Dieu puisse les imprimer sur notre cœur et puisse les bénir pour nous.